Alors, nous allons reprendre. Merci de vous installer de nouveau et de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Donc, pour la deuxième partie de cet exposé, je repasse la parole à Geneviève Rémeringer.
On l'a dit, mais répétons-le, toute la politique de Hitler à partir de 1933 visait à réarmer l'Allemagne pour préparer la guerre. En juin 1933, Trotsky expliquait que ce qui séparait désormais le monde de la guerre était le temps nécessaire au réarmement de l'Allemagne, qu'il estimait à 6 ans, et il avait vu juste. Et dans cette marche à la guerre, Hitler ne rencontra aucune résistance des grandes puissances impérialistes. Certains historiens y voient de la faiblesse ou du pacifisme des régimes occidentaux. C'était en réalité de la complaisance avec le régime nazi, complaisance appuyée sur une véritable solidarité de classe entre régimes bourgeois. En effet, le régime hitlérien mis en place en 1933 était apprécié en fait à Paris et à Londres. La bourgeoisie mondiale avait gardé vivant le souvenir de la peur des soubresauts révolutionnaires de 1917-1921. Les industriels, les hommes politiques en Europe et aux États-Unis voyaient donc d'un bon œil ce pouvoir capable d'écraser la classe ouvrière la plus organisée et la plus forte d'Europe. Les films critiquant Hitler étaient censurés à Londres. Charlie Chaplin dut produire lui-même Le Dictateur, car personne ne voulait de ce film, ni à Hollywood, ni à la Maison Blanche. Quant à l'antisémitisme du régime nazi, il ne gênait pas plus les gouvernements occidentaux. Les hommes politiques de la bourgeoisie partageaient une grande partie de ces préjugés racistes. Et l'oppression des populations ne pouvait vraiment pas choquer ces hommes, ayant eux-mêmes utilisé le racisme pour justifier la colonisation. Les bourgeoisies françaises et anglaises avaient plus peur de la classe ouvrière que de Hitler. Alors Hitler a commencé par augmenter les effectifs de l'armée, au vu et au su de tout le monde. Puis il a envoyé son armée occuper la région frontalière de la France, démilitarisée jusque-là. Et les grandes puissances le laissèrent faire. Il a envahi et annexé l'Autriche, sans que personne ne bouge. Et quand il occupa une grande partie de la Tchécoslovaquie, les chefs d'État britanniques et français le tolérèrent et rendirent même officielle leur acceptation en signant avec lui les accords de Munich en 1938 sur le dos des Tchécoslovaques. Les grandes puissances ne s'attaquèrent pas à Hitler, et l'attendre d'elles, c'était une grave illusion. Elles n'avaient aucune raison de vouloir une guerre. Leur position dominante, leurs empires coloniaux, les rendaient satisfaites de l'organisation du monde. Alors si bien des hommes politiques de la bourgeoisie comprenaient très clairement qu'Hitler préparait un repartage du monde, ils espéraient que la conquête des territoires orientaux de l'Europe lui suffirait, et qu'ainsi les bourgeoisies impérialistes seraient épargnées. Et ils acceptaient donc volontiers de céder la Tchécoslovaquie et l'Autriche pour protéger leurs propres colonies. Ce fut la même logique qui permit à Mussolini d'attaquer l'Éthiopie sans devoir subir de sanctions de la part des grandes puissances. À l'autre bout du monde, le Japon put réduire en esclavage des centaines de milliers de Coréens, puis occuper une grande partie de la Chine, et massacrés, comme à Nankin, 300 000 personnes furent assassinées en 1937. Tout cela sans réaction des prétendues démocraties. Dans toute la période, les seules réactions vinrent de la classe ouvrière. À partir de 1934, des luttes ouvrières en nombre secouèrent bien des pays, bien des continents, mettant en mouvement des forces considérables. Dans leur sillage, des opprimés dans les colonies se mettaient en mouvement aussi. Toutes ces luttes avaient la même cause, la crise du système capitaliste et la domination de la bourgeoisie qui lui permettait de faire payer chèrement aux populations cette crise. La cause était mondiale, la réaction ouvrière le fut aussi. Avec cette remontée de la combativité ouvrière, surgissait enfin la perspective d'arracher la direction de la société à la bourgeoisie. Mais cette réaction ouvrière n'est pas venue tout de suite. Elle a pris du temps. Dans les premières années de la crise, la classe ouvrière semblait même assommée, sans réaction. Il fallait alors une conviction profonde dans les capacités de la classe ouvrière pour continuer à militer dans ce qui semblait être un désert. Trotsky écrivait en 1931, je le cite, « Les États-Unis sont passés sans transition d'une période de prospérité inouïe qui stupéfia le monde entier par un feu d'artifice de millions et de milliards de dollars, au chômage de millions de personnes, à une période de misère biologique épouvantable pour les travailleurs. Une secousse sociale aussi importante ne peut pas ne pas marquer l'évolution politique du pays. On peut supposer que les masses elles-mêmes ont été à ce point surprises par la crise de conjoncture catastrophique, à ce point écrasées et abasourdies par le chômage ou la peur du chômage, qu'elles n'ont pas encore réussi à tirer les conclusions politiques élémentaires du malheur qui s'est abattu sur elles. » C'est toujours Trotsky qui parle en 1931. Il est tout à fait possible que la radicalisation révolutionnaire de larges couches ouvrières se produise non lorsque la conjoncture sera au plus bas, mais au contraire, quand on se dirigera vers une reprise économique et un nouvel essor. Et en effet, c'est 5 ans après le début de la crise, en 1934, que les États-Unis connurent une remontée spectaculaire de la combativité ouvrière. À Toledo, dans l'Ohio, des ouvriers se lancent dans une grève pour les salaires. Le patronat répond par l'envoi de la garde nationale et par des meurtres. Mais les grévistes font appel à la solidarité ouvrière, avec le soutien des femmes, des chômeurs, de toute la population. Ils finissent par faire reculer la garde nationale et obtenir des hausses de salaire ainsi que la reconnaissance de leurs syndicats. Au même moment, à des centaines de kilomètres, au centre du pays, à Minneapolis, une grande grève des camionneurs a lieu pour la reconnaissance de leurs droits. La grève, organisée par des militants trotskistes, est minutieusement préparée. Elle est dirigée par un comité de grève. Ils installent leur quartier général dans un grand garage, avec un hôpital, une cuisine pouvant nourrir des milliers de grévistes, des camions pour les piquets de grève mobiles. Préparés aux affrontements, les grévistes ne reculent pas et finissent par imposer leurs revendications. Là encore, les capacités de s'organiser, de faire appel aux autres travailleurs font leur preuve. Pendant le même été 34, une grève des dockers à San Francisco se transforme en grève générale sous la direction des militants du Parti communiste américain et contre la volonté du syndicat officiel. En 1936, dans les usines General Motors, la plus grande entreprise américaine, des grèves éclataient et bloquaient la production. Plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers participèrent à ces grèves avec occupation. Encore une fois, le prolétariat américain montrait ses trésors d'organisation et sa détermination. Et malgré les multiples interventions policières, il ne recula pas. La direction de la General Motors fut contrainte de reconnaître le syndicat. En 1937, il y eut plus de 4000 grèves, mettant en mouvement 2 millions de grévistes. Le gouvernement de Roosevelt chercha alors à protéger la bourgeoisie américaine de la radicalisation de la classe ouvrière. Il commença par faire voter un certain nombre de mesures sociales, comme la mise en place d'une sécurité sociale avec des pensions de vieillesse, des allocations chômage, etc. Mais cette loi ne concernait ni les domestiques, ni les ouvriers agricoles, c'est-à-dire pas la grande majorité des travailleurs noirs. Et surtout, il chercha à convaincre la bourgeoisie américaine de changer d'attitude face aux syndicats. Il s'agissait désormais d'accepter les syndicats, de leur reconnaître une place pour obtenir leur soutien. Le danger était concret pour la bourgeoisie américaine. Des dizaines de milliers de jeunes ouvriers entraient en lutte pour la première fois de leur vie. Cela pouvait aboutir à la construction de véritables organisations de classe, voire d'organisations révolutionnaires. C'est pour éviter cela que Roosevelt fit adopter une loi reconnaissant les syndicats. Loi qui resta malgré tout ça timorée, et il fallut encore de nombreuses grèves pour la faire appliquer. Mais malgré sa combativité, le prolétariat américain n'arriva pas à construire des organisations de classe. Il ne trouva pas une véritable direction indépendante de la bourgeoisie. Au contraire, les dirigeants du mouvement ouvrier se rallièrent à Roosevelt. Ce fut en particulier le cas du Parti communiste américain, et cela correspondait à un nouveau changement radical de politique, un nouveau tournant de Staline et de l'ensemble des partis communistes dans le monde. En effet, depuis 1933, les hommes de Staline avaient compris que Hitler au pouvoir représentait un danger direct pour l'URSS, que la politique guerrière et expansionniste du nazisme se tournerait inévitablement contre elle. Et contre ce danger, la bureaucratie ne voulut pas s'appuyer sur le prolétariat mondial, car une nouvelle révolution aurait mis en péril le pouvoir de la clique stalinienne. Staline chercha au contraire un appui du côté des États bourgeois d'Occident. Cela se traduisit par une politique conciliante des partis communistes vis-à-vis de leur propre bourgeoisie. Aux États-Unis, le Parti communiste devint donc un soutien de Roosevelt, et en France, le PCF connut le même tournant à 180 degrés de sa politique au moment où la classe ouvrière retrouvait sa combativité. La remontée ouvrière en France fut en grande partie liée à la prise de conscience du danger fasciste. L'écrasement du prolétariat allemand, suivi de celui du prolétariat autrichien, furent vécus par les travailleurs en France comme des coups de semonce. Alors quand en février 1934, les Ligues, ces organisations d'extrême droite françaises, déclenchèrent une émeute contre le gouvernement, la réaction ouvrière fut immédiate. Le 12 février, la grève, en réaction à cette émeute, fut un succès. Les travailleurs répondaient présents. Dans tout le pays, la grève fut largement suivie. Elle s'accompagna de manifestations où les aspirations à l'unité s'exprimaient clairement. Les ouvriers voulaient l'unité pour mener les luttes. L'unité, ça pouvait signifier des milices ouvrières communes entre les socialistes et les communistes, pour empêcher toute attaque de la part des organisations d'extrême droite, ou encore des comités élus dans les entreprises pour les surveiller, une préparation méthodique à la lutte, en quelque sorte. Mais cette volonté d'unité fut détournée par les deux partis ouvriers français. En 1935, la SFIO socialiste et le Parti communiste français constituèrent un front électoral avec le Parti radical. C'était le fameux Front populaire. S'allier avec le Parti radical, c'était s'allier avec le plus vieux et le plus usé au pouvoir des partis bourgeois. Pour le Parti communiste, cela voulait dire rejoindre le camp des hommes politiques de la bourgeoisie. Quelques semaines auparavant, Staline avait déjà conclu un accord militaire avec Laval, représentant du gouvernement français. Pour les militants, le changement était abrupt. C'en était fini de l'antimilitarisme qui avait fait les heures de gloire du PCF. Le programme de ce front électoral, de ce front populaire, ne comportait même pas les revendications ouvrières que les grèves de mai-juin 1936 allaient mettre à l'ordre du jour. Et pourtant, dans ce climat de remontée ouvrière, le Front populaire gagna les élections législatives d'avril 1936 et forma un nouveau gouvernement, dirigé par le chef de la SFIO, Léon Blum. Cet avocat d'affaires avait fait ses classes dans les écoles de la bourgeoisie. Et depuis longtemps déjà, à la tête de la SFIO, il prônait la gestion loyale du capitalisme, selon ses propres termes. Autant dire que la bourgeoisie n'avait vraiment rien à craindre de ce nouveau gouvernement. Mais la donne fut cependant changée par l'intervention de la classe ouvrière, avant même la formation officielle du gouvernement de Front populaire. Au début du mois de mai, des ouvriers firent grève et obtinrent la réintégration de leurs camarades sanctionnés pour avoir participé aux manifestations du 1er mai, qui n'était pas un jour férié à l'époque. Le 24 mai 1936, la commémoration de la Commune de Paris et de son massacre par les Versaillais se transforma en manifestation ouvrière monstre. Les 60 000 manifestants purent mesurer leur force. Dès le lendemain des grèves éclatées dans la région parisienne, le 28 mai, les usines Renault de Billancourt furent gagnées par la grève. La CGT n'avait ni préparé ni voulu cette grève. Mais les militants, en particulier les militants communistes, par leur présence, leur courage face à un patronat de combat, l'énergie qu'ils avaient dépensée à organiser les travailleurs, à étendre l'influence des idées communistes, jouèrent un rôle dans le déclenchement de la grève. Mais personne n'avait prévu son ampleur et sa détermination. Dans les jours suivants, la grève s'étendit dans tout le pays, à tous les secteurs. De la métallurgie, elle gagna la chimie, le textile. De l'industrie, elle passa au transport, au bureau. jusqu'aux vendeuses des grands magasins qui se mettaient en grève. Les salariés des cafés et restaurants, les laboratoires pharmaceutiques, les usines de chaussures, les cinémas, les vendeurs des kiosques à journaux, les camionneurs des halles, la grève toucha des catégories qui n'avaient jamais connu de lutte jusque-là. Et cette grève générale, œuvre des travailleurs eux-mêmes, rencontra le soutien de bien des catégories de la population. Cette grève générale, qui s'accompagnait la plupart du temps de l'occupation des usines ou des locaux, terrifia le patronat. La classe ouvrière s'était rendue maîtresse des entrepôts, des usines, des magasins, des chantiers, qu'elle gardait avec tranquillité. Les bourgeois sentaient que cette force collective pouvait tout leur prendre, pouvait leur ôter le contrôle de l'économie, pouvait leur enlever leur pouvoir. Et ils avaient peur. La révolution russe n'était vieille que de 19 ans. À l'époque, les patrons français savaient que ça pouvait leur arriver aussi. Alors ce furent eux qui allèrent chercher Blum pour imposer des négociations. Les mêmes qui ne voulaient pas entendre parler de syndicats chez eux les suppliaient de faire cesser le mouvement. Dans la nuit du 7 au 8 juin, les représentants patronaux et syndicaux signèrent les accords connus sous le nom d'accord Matignon. Les patrons cédaient la reconnaissance du droit syndical, l'instauration de délégués ouvriers élus et des augmentations de salaire, contre l'évacuation des usines et la fin des grèves. Le gouvernement Blum, lui, fit ensuite voter les lois sur les congés payés et les 40 heures hebdomadaires. Les dirigeants syndicalistes comme les dirigeants socialistes et communistes voulaient la fin de la grève, la fin de cette effervescence ouvrière. Ils mirent tout leur poids, en particulier les communistes, les plus implantés dans la classe ouvrière, pour faire reprendre le travail. Mais il fallut du temps pour convaincre les grévistes de cesser leur mouvement. La fraternité acquise dans la lutte collective, la force mise en action dans les grèves, le sentiment qu'on pouvait garder les usines, les faire fonctionner sans le patron. Les ouvriers ne voulaient pas céder tout cela. Ils résistèrent à la volonté de les faire rentrer dans le rang. Le 11 juin, Maurice Thorez, dans l'Humanité, affirmait « Il faut savoir terminer une grève ». Le 12 juin, il insistait « Tout n'est pas possible maintenant ». Le PC poursuivait ainsi sa politique de soutien à la bourgeoisie française entamée en 1935. Il pesa de toutes ses forces pour empêcher le mouvement de grève de devenir un mouvement révolutionnaire capable de se fixer d'autres objectifs. Certes, les acquis de 1936 sont les plus importants jamais obtenus par la classe ouvrière en France. Mais en laissant le contrôle de l'économie à la bourgeoisie, les chefs communistes et syndicalistes la laissaient aussi organiser sa riposte et finalement tout reprendre. Dès la fin 1936, les augmentations de salaire disparurent dans celles des prix. En 1938, le gouvernement revint sur la loi des 40 heures et puis il fit voter le blocage des salaires. Finalement, la politique des partis ouvriers français en 1936 a freiné et arrêté la mobilisation ouvrière. Et surtout, elle a empêché le prolétariat de comprendre les véritables enjeux de l'époque. Un gréviste de 1936 raconte par exemple, je le cite, 1936, c'était insensé, incroyable. Tout ça était d'une gaieté, c'était la force calme, tranquille, l'évidence. Le Front populaire, personnellement, je pensais que cela devait durer éternellement. Si on m'avait dit que 3 ans après, il y aurait la guerre, j'aurais été sidérée. Eh oui, dans les années 30, la seule question posée par l'histoire était « Le capitalisme mènera-t-il à la guerre en passant par le fascisme ou la classe ouvrière pourra-t-elle éviter la catastrophe en le renversant ?» La crise de l'économie capitaliste avait mis à vif les pires contradictions du système. La bourgeoisie était devenue incapable de maintenir sa domination politique et économique par des moyens traditionnels. Sa décadence se traduisait par son recours au fascisme dans certains pays. Les différentes bourgeoisies ne pouvaient résoudre leurs conflits d'intérêts autrement que par la guerre. Seules les luttes ouvrières offraient la possibilité de mettre fin à la marche à la guerre et au fascisme, en attaquant le mal à la racine, en s'en prenant à la domination de la bourgeoisie sur le monde. Que la classe ouvrière en soit consciente ou pas, elle porte l'avenir de toute la société dans ses mains, dans ses luttes, car elle est la seule classe capable de renverser le capitalisme. Et elle le montra dans les années 30. Des grèves se déclenchèrent aux États-Unis et en France, comme on a vu, mais aussi dans toute l'Europe, en Belgique, au Royaume-Uni, en Pologne, en Grèce, en Yougoslavie. Des grèves éclatèrent aussi en Indochine, en Tunisie, au Maroc. Elles s'accompagnèrent de luttes contre la colonisation. En 1936, la révolte arabe gagna tout le Moyen-Orient. Dans ce bouillonnement international se profilait la possibilité de retourner une situation qui menait à la guerre. D'autant plus que, contrairement à 1917, les événements révolutionnaires avaient aussi lieu dans les pays les plus développés, au cœur du système, là où le prolétariat pouvait l'atteindre mortellement. Les luttes ouvrières furent suffisamment internationales et profondes pour ouvrir un processus révolutionnaire. Dans bien des pays, ce processus ne fut que ébauché. Mais en 1936, en Espagne, la révolution ouvrière éclata pour de bon. Dans ce pays, la remontée des luttes ouvrières avait commencé dès 1931, avec le renversement de la monarchie. Entre 1931 et 1936, les gouvernements, donc républicains, dits républicains, ne voulurent d'aucune réforme sérieuse et restèrent hostiles au monde ouvrier. Les travailleurs espagnols continuèrent donc à combattre les possédants et les gouvernements républicains, et ce furent des années de prise de conscience révolutionnaire pour eux. En février 1936, les élections portèrent au pouvoir un gouvernement de Front populaire, soutenu par tous les partis républicains, les partis de gauche, et ayant même le soutien tacite de la CNT anarchiste. Ce fut un homme de la bourgeoisie, un républicain, qui en prit la tête du gouvernement, pas de la CNT anarchiste. Cette victoire électorale fut vécue par les travailleurs comme un encouragement à poursuivre les luttes. Les grèves se multiplièrent partout. Une atmosphère de guerre civile régna en Espagne. Mais le nouveau gouvernement de Front populaire ne voulait surtout pas s'attaquer aux classes possédantes. Il laissa en place l'armée et les généraux les plus réactionnaires, dont Franco. Il conserva la police, la justice, les piliers de l'État bourgeois. La bourgeoisie espagnole continuait à craindre, non pas le gouvernement de Front populaire, mais les travailleurs. Alors le 17 juillet 1936, Franco lança le signal d'un coup d'État contre le gouvernement, destiné en fait à mettre fin aux luttes du prolétariat. Une partie du pays passa sous la dictature des armées de Franco. Mais dans le reste du pays, le coup d'État déclencha la révolution ouvrière tant redoutée. Les travailleurs seuls, puisque le gouvernement républicain avait refusé de leur donner des armes, avait refusé d'arrêter les généraux putschistes, avait même refusé de les informer des préparatifs de ce coup d'État. Les travailleurs seuls, donc, montèrent à l'assaut des casernes, à Barcelone, à Madrid et dans d'autres villes. Ils s'armèrent eux-mêmes, arrêtèrent les putschistes et se retrouvèrent maîtres du terrain, car l'État républicain était allé se cacher. L'armée officielle et la police étaient passées dans le camp de Franco ou avaient simplement disparu. C'était une révolution qui était en marche et qui soulevait les masses opprimées en Espagne. Les travailleurs se battaient non pour cette république bourgeoise qui avait tourné le dos à leurs aspirations, mais pour se débarrasser de l'exploitation, pour briser le pouvoir des prêtres et des militaires. Ils voulaient une vie digne, la liberté et la fin des humiliations. Dans la plus grande partie du pays non occupé par Franco, les ouvriers prirent leur sort en main. Ils prirent le contrôle des entreprises. Des comités se constituèrent pour organiser l'économie, gérer toute la société. Les biens de l'Église furent confisqués. Dans les campagnes, les paysans prenaient les terres et les collectivisaient eux-mêmes. Là aussi, ils s'organisaient et mettaient en place des comités pour tout gérer. De véritables organes du pouvoir ouvrier naissaient, tendant à remplacer l'État républicain. Mais contrairement à ce qui s'était passé en Russie en 1917, aucun parti n'avait comme politique de détruire ce pouvoir bourgeois et de construire un véritable État ouvrier. Le gouvernement de Front populaire espagnol était devenu caduque, sans force et sans pouvoir réel, mais il existait encore, et les politiciens républicains le firent renaître pour en faire le centre de la contre-révolution. En septembre 1936, le dirigeant socialiste Largo Caballero prit la tête du gouvernement républicain, avec cette fois des ministres communistes auxquels s'adjoignirent des ministres anarchistes. Son objectif principal était de restaurer l'autorité de la bourgeoisie, sous l'étiquette de république. L'armée et la police républicaine furent reconstituées. L'appareil d'État retira peu à peu aux organisations ouvrières, aux comités qui étaient nés dans la Révolution, leur pouvoir. Cette politique réellement contre-révolutionnaire rencontra le soutien de Staline. Celui-ci redoutait qu'une révolution ouvrière vienne ébranler le monde et permette alors à la classe ouvrière russe de remettre en cause la dictature de la bureaucratie. Alors oui, l'URSS envoya bien des armes en Espagne, d'ailleurs au compte-gouttes, et en se faisant payer. Mais, et ce fut l'essentiel, par l'intermédiaire du Parti communiste espagnol et des conseillers politiques russes, Staline, l'URSS, aida le gouvernement à combattre les révolutionnaires espagnols. Toutes ces attaques contre les conquêtes ouvrières se firent sous couvert de lutte contre Franco. Les directions socialistes, communistes et anarchistes tentaient de faire croire aux ouvriers qu'ils devaient abandonner leur position, se ranger derrière le gouvernement bourgeois pour vaincre Franco d'abord et que la révolution viendrait après. Tout cela n'était qu'un mensonge. Le gouvernement socialiste espagnol et ses supplétifs du Parti communiste œuvrèrent même à désarmer la classe ouvrière en décidant la dissolution des milices ouvrières, fer de lance de la collectivisation des terres et de la révolution. Ils voulaient remplacer les milices par une armée sous le contrôle du gouvernement officiel, une armée bourgeoise. Les travailleurs de Barcelone n'acceptèrent pas d'être ainsi désarmés. Ils s'insurgèrent contre le gouvernement républicain et érigèrent des barricades dans la capitale de la Catalogne. Mais sans direction révolutionnaire, ils finirent par être vaincus. Et le Parti communiste espagnol en profita alors pour mener toute une campagne d'assassinat des militants espagnols jugés trop radicaux. En mettant fin aux mesures révolutionnaires de juillet 1936, le camp dit républicain perdait aussi de sa force. Les soldats marocains enrôlés par Franco savaient bien que cette république n'avait pas mis fin à la colonisation. Les paysans, à l'arrière des troupes franquistes, voyaient bien que dans le camp républicain, on abandonnait la collectivisation des terres. Et plus généralement, en détruisant les comités et milices ouvrières, le gouvernement cassait la colonne vertébrale de la lutte, l'enthousiasme, le réservoir d'énergie. Cette politique ne pouvait que finir par la victoire de Franco. Contrairement à l'argument utilisé par les républicains pour justifier les reculs, ne pas faire peur à nos alliés bourgeois, ils n'avaient pas d'alliés dans le camp bourgeois. Toute la bourgeoisie espagnole était dans le camp de Franco. Et les gouvernements bourgeois de France, du Royaume-Uni et des États-Unis, craignant plus que tout la contagion révolutionnaire, asphyxièrent le camp républicain tout en priant pour une défaite des travailleurs. Les seuls véritables alliés des combattants espagnols étaient les ouvriers du monde entier, qui pouvaient se reconnaître dans une révolution en marche. Mais tout fut fait pour empêcher la révolution de s'étendre. Le gouvernement espagnol, ne voulant surtout pas de cette guerre de classe qui démarrait, fit tout pour la réduire à une guerre civile entre deux camps militaires. Mais les opposants à Franco ne pouvaient pas vaincre sur le terrain strictement militaire. D'autant plus que Hitler et Mussolini, eux, soutenaient Franco. En prévision de la guerre mondiale à venir, Hitler utilisa l'Espagne pour tester ses chars, ses méthodes et surtout ses avions dans des bombardements de populations civiles comme à Guernica. La classe ouvrière espagnole a su combattre les militaires, a su prendre son sort en main, organiser la société là où elle avait arraché le pouvoir. Mais les partis, socialistes avant tout, mais aussi staliniens et anarchistes, en restaurant l'appareil d'État et en lui permettant de reprendre le contrôle de la société, ont orchestré une véritable contre-révolution. Et cela ouvrait les allées du pouvoir à Franco. En 1939, il entra dans Barcelone, dernière étape avant d'instaurer sa dictature pour 40 ans. Les combattants espagnols qui cherchaient refuge en France se retrouvèrent dans des camps. La République française les traitait en ennemis et nombre d'entre eux finirent par être livrés aux nazis. Toutes ces défaites ont été payées par la guerre et par ses atrocités. Mais rien ne peut faire oublier la responsabilité collective de la bourgeoisie dans cette Seconde Guerre mondiale. La bourgeoisie allemande, on en a parlé en premier lieu, qui a installé Hitler au pouvoir et lui a ainsi laissé les mains libres pour mettre au point le génocide de 6 millions de Juifs et de Tziganes. Les bourgeois allemands n'ont peut-être, dans l'ensemble, pas voulu de la solution finale, mais ils ont été prêts à livrer le pays à la pire des barbaries, plutôt que de prendre le risque de perdre leur pouvoir. Et donc, ils en ont été responsables. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas privés d'en tirer profit en faisant travailler des déportés dans leurs usines pendant la guerre. Et cela avec la complicité des dirigeants du monde capitaliste qui savaient ce qui se perpétrait dans les camps d'extermination. Mais durant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, cette guerre qu'ils menaient non pour lutter contre le fascisme, mais pour résister à la suprématie de l'impérialisme allemand, ils ont continué à préférer bombarder les usines allemandes, voire les populations civiles, plutôt que les chemins de fer qui alimentaient ces camps de la mort. Alors, ce qui a manqué cruellement dans toutes ces années 30, face à la crise et au fascisme, ce ne sont ni les capacités de lutte, de sacrifice, d'enthousiasme de la classe ouvrière. Ce qui a fait défaut, c'est ce que Trotsky appelait une direction révolutionnaire, un parti avec la volonté de mener les combats jusqu'au bout. Et c'est avec cette expérience du mouvement ouvrier, que nous abordons la période présente. La crise économique actuelle a déjà des conséquences graves. Des dizaines de millions de chômeurs, rien que dans les pays développés. Et dans le monde, le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes réduits à la famine dépasse le milliard. Mais on est loin d'avoir tout vu. Les milliards déversés, par exemple, pour sauver les banques, il faudra bien les payer. Et on ne sait pas quelles en seront les conséquences pour les classes populaires. La crise d'aujourd'hui est la démonstration de l'impasse du capitalisme. Cette organisation sociale est non seulement incapable, même dans les périodes de prospérité, de résoudre des problèmes essentiels de l'humanité, à commencer par la faim dans le monde, mais en plus, périodiquement, elle conduit avec les crises à un gâchis effrayant. Alors qu'ils enterrent le communisme autant qu'ils le veulent, les aberrations de leur système rendent ces idées toujours aussi vivantes et actuelles. Le communisme est né et continue à exister du fait de l'incapacité du capitalisme à sortir l'humanité de la barbarie. Avec la crise, c'est toute la société qui est poussée vers l'incertitude et l'instabilité. La vie de millions de personnes va être transformée, bousculée. Aujourd'hui, surprise, confrontées aux coups qui leur sont portés, les masses ouvrières sont sans perspective. Mais elles retrouveront le chemin des luttes, c'est inévitable. Et à ce moment-là, la classe ouvrière fera surgir de ses rangs des militants, des centaines, des milliers de militants, qui auront à cœur de se mettre en avant dans les luttes, de se consacrer au combat de leur classe. Mais il faudra que ces militants puissent renouer avec les combats et les expériences du passé, avec les idées communistes, révolutionnaires. Il faudra donc qu'existe dans le mouvement ouvrier un courant révolutionnaire capable de se faire entendre pour que ces militants des luttes de demain ne trouvent pas comme seule perspective les politiques d'abandon, de défense des intérêts bourgeois prônées par des partis comme les partis socialistes ou communistes. Il nous appartient donc de combattre la seule véritable utopie qui règne dans le mouvement ouvrier, celle des dirigeants politiques ou syndicaux qui voudraient nous faire croire qu'on peut gérer tranquillement le capitalisme, bref, que la révolution n'est pas nécessaire. À nous d'affirmer notre confiance dans les forces du prolétariat, dans ses capacités à arracher la direction de l'économie, le pouvoir à la bourgeoisie, pour bâtir une autre société, une société communiste.
Nous allons maintenant passer au débat. Alors, des camarades circulent avec un micro-baladeur dans la salle. Si des organisations souhaitent prendre la parole, nous leur demandons de se limiter à une intervention par organisation. Donc les camarades qui souhaitent intervenir sont invités à lever la main pour que nous puissions organiser le débat. Oui, il y a un camarade là-bas. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions ? Bon, mes camarades, tu as 3 minutes.
Oui, j'interviens pour la Ligue trotskiste de France. Face à la crise économique, la bureaucratie syndicale veut une politique industrielle pour la France. Les bureaucrates raccrochent ainsi les travailleurs à la politique de la bourgeoisie pour sauver les installations industrielles du capitalisme français aux dépens des travailleurs d'autres pays. C'est une mesure protectionniste, fondamentalement opposée à la devise de Marx, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Tout ce que LO propose, c'est d'y rajouter quelques mots d'ordre décoratifs et utopiques, comme l'interdiction des licenciements sous le capitalisme. LO couvre ainsi le chauvinisme de la bureaucratie syndicale, de la CGT, parce que ces cadres sont eux-mêmes des bureaucrates syndicaux à des échelons de plus en plus élevés de l'appareil de la CGT. Pour les travailleurs, il n'y a pas de réponse simple à la crise dans le cadre de la combativité syndicale. Nous nous opposons au sauvetage protectionniste du gouvernement et des patrons de l'industrie automobile qui se fait aux dépens de la classe ouvrière. Il faut un programme de transition partant des revendications immédiates indispensables à la survie du prolétariat et conduisant les travailleurs à la compréhension que le système capitaliste est irrationnel et incapable de satisfaire les besoins vitaux de la classe ouvrière. Il doit être remplacé à travers une révolution ouvrière par une économie planifiée au niveau international. Notre modèle, c'est la révolution d'octobre 1917 en Russie, le programme de la dictature du prolétariat. LO a officiellement renoncé à la dictature du prolétariat en 2003, quand elle s'est prononcée pour la dictature démocratique, entre guillemets, la formule antérieure à la révolution russe. LO a effectivement apporté sa pierre à la destruction contre-révolutionnaire de l'URSS, par exemple en soutenant la réunification capitaliste de l'Allemagne il y a exactement 20 ans. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils prennent maintenant directement part à la gestion du capitalisme au niveau municipal dans des mairies chevènementistes, PS ou PCF, des mairies capitalistes de Front Populaire. La tâche des marxistes aujourd'hui, c'est de démasquer les réformistes comme lutte ouvrière, obstacle à la révolution socialiste, et de réancrer les leçons et enseignements de Marx, Engels, Lénine et Trotsky. C'est le but de la Ligue communiste internationale et sa section française de la Ligue trotskiste. Je vous recommande de venir acheter le Bolchevique et notre journal international.
Tu peux conclure, camarade.
Édition française. Je vous remercie.
Pour répondre, je repasse la parole à Geneviève Remeringer.
Alors, je ne vais pas répondre à tout, évidemment, hein, mais quand même, il y a quelques petites choses que j'ai envie de dire. D'abord, je ne vois pas où est-ce qu'on a été complaisant avec le protectionnisme. Ça fait partie des choses qui sont absolument mensongères. Mais surtout, je remarque que le camarade arrive à dire deux choses absolument... plus de deux choses, mais au moins deux choses contradictoires dans son intervention. Un, qu'il est trotskiste. Deux, qu'il trouve que l'interdiction des licenciements, c'est utopique. Je l'enverrai relire un livre de Trotsky pas mal, hein, quand même, Le programme de transition, où justement Trotsky, il explique ça. Et dans le programme de transition, en 1938, les mots d'ordre de Trotsky... pour les raisons, justement, pour élever la conscience de la classe ouvrière, en prévision des luttes qu'il espérait à ce moment-là, et c'est normal en tant que militant, c'était l'interdiction des licenciements, c'était l'échelle mobile des salaires et du temps de travail, c'était le contrôle des travailleurs sur les entreprises. Bien sûr, tout ça, c'est utopique dans le cadre du capitalisme, mais des révolutionnaires, ils sont là pour mettre en place des mots d'ordre pour des luttes qui renversent le capitalisme, justement. Et donc, une fois que les camarades de la LTF auront relu le programme de transition, je leur propose aussi de se pencher sur l'histoire du mouvement ouvrier. Parce que comme ça, ils verront que de tout temps, les révolutionnaires, ils ont participé à des conseils municipaux, à l'époque de Marx, d'Engels, de Lénine, parce que ce n'était pas contradictoire avec le fait d'être révolutionnaire. Alors évidemment, pour le camarade, l'État et les conseils municipaux, c'est la même chose. Je suppose que s'il était biologiste, une baleine et un poisson rouge, ça serait la même chose. Mais ce n'est pas vrai. Quant à la dictature du prolétariat, évidemment, bien sûr qu'on est pour. Je crois que je l'ai largement suffisamment expliqué ce soir.
Camarades, cette réunion prend fin. Le prochain cercle Léon Trotsky aura lieu jeudi 10 décembre. Il sera question d'une critique politique des idées qui prônent, avec plus ou moins de virulence, la décroissance. Et qui, au fond, théorise ce recul de la production que le capitalisme est en train de nous imposer. Merci.